Depuis le lancement de Thémavette en octobre 2022, il nous manquait quelque chose pour pouvoir vous proposer une offre média 100% complète. C'est chose faite aujourd'hui puisqu'on lance les Ronéo pour les vétérinaires et les Ronéox pour les ASV. Alors vous aurez compris, hein, le jeu de mots Ronéo, ça vous aura rappelé des souvenirs d'école avec ce système collaboratif de prise de notes en amphi. Les Ronéotistes ou les preneurs, hein, selon les écoles. Alors c'est quoi ces Ronéo, Ronéox? Eh bien, c'est de la presse clinique en digital, écrite par des vétérinaires experts dans leur domaine, qui vous permettent d'apprendre quelque chose en 5 minutes chrono depuis votre smartphone. Quelque chose de réutilisable immédiatement en clientèle. Ça peut être le résumé d'une publi, un mécanisme physiopathe de maladie, une synthèse biblio, l'analyse fine d'une radio, etc. Tout un tas d'angles, mais avec un format commun, c'est-à-dire une fiche écrite pour le digital. Alors ça peut être de la canine, de la rurale ou de l'équine, hein. Vous avez un outil de tri à votre disposition. C'est gratuit. Par contre, il faut que vous vous connectiez à votre compte Thémavette et pour les vétos, que vous vous authentifiez en tant que tel via le site de l'Ordre. Notre équipe technique a beaucoup travaillé et nous sommes très fiers d'être le premier média à vous proposer de la presse clinique vétérinaire en digital. J'en profite au passage pour les remercier. Vous trouverez ces Ronéo et Ronéox sur notre site internet, déjà en ligne. Et maintenant, votre épisode.
Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavette.
Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste et fondatrice de Thémavette.
Moi, je suis Sophie Ulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a mille façons d'être vétérinaire.
Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité.
Vous êtes ici chez nous.
Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille vétérinaire et coach Anne-Sophie Doléac. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Alors Anne-Sophie, tu es diplômée de Nantes en 2008. Tu es aujourd'hui vétérinaire dans une clinique parisienne et coach professionnel pour individus et collectifs via ta propre entreprise d'Océovet, que tu as créée en 2020. Ce métier, tu l'exerces grâce à tes nombreuses expériences cumulées en tant que vétérinaire terrain, vétérinaire en industrie, et aussi ton MBA en 2016 à l'Institut Léonard de Vinci à La Défense. Pendant ton temps libre, c'est la marche, la course à pied, le running et en tant qu'extraverti, les rencontres avec les gens. Ton mantra, je pense que l'on peut soi-même être plusieurs vétos dans le temps et aussi en même temps. Tu vas d'ailleurs nous raconter tout ça. Anne-Sophie, es-tu prête?
Eh oui, je suis prête, c'est parti.
Alors, je vais démarrer avec la question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire?
Alors, pourquoi vétérinaire? C'est un choix, ou en tout cas une idée de métier qui m'est arrivée un petit peu sur le tard, je dirais au lycée. Du coup, c'est vrai que les échéances d'inscription, de se lancer dans les inscriptions en prépa, etc., n'étaient pas trop tardives. Ils sont venus quelques temps après. Et je pense qu'à l'époque, c'était dans l'idée de guérir, soigner, réparer, un côté un petit peu technique qui m'attirait. Parce que c'est vrai que j'avais un peu dans l'idée ou partir en médecine ou côté vétérinaire. Et c'est vrai que j'étais partie sur côté vétérinaire en me disant « Oh, bah, il y aura plein d'espèces, ça va apporter de la diversité, encore plus de... Bah, » voilà, pour nourrir un peu déjà la curiosité à l'époque. Et du coup, hop, j'étais partie là-dessus. Et voilà, mon chemin a démarré pour devenir vétérinaire, voilà, quelques années plus tard.
Et quelle petite fille étais-tu alors pour avoir envie d'être vétérinaire?
Alors j'étais plutôt une petite fille travailleuse, réservée, et puis bah rigolote, pétillante, un petit peu touche à tout, un peu de sport, un peu de musique. Et c'est vrai que les premiers métiers étaient plutôt dans l'idée d'enseignement, peut-être parce que ma mère était enseignante dans le supérieur, Et puis on voit finalement, ça me rattrape aussi à l'idée de transmettre. Donc c'est un petit peu au début partie de ça enfant, et puis ouais, le côté vétérinaire, je pense que c'est le fait de peut-être pouvoir être au contact avec la nature, la vie, la biologie, le vivant, quoi. Hein, je pense que c'est ça qui m'a attirée aussi. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas forcément d'idée d'être en contact avec les propriétaires, le côté relationnel qui me convient bien aujourd'hui, mais je pense que j'avais pas forcément une connaissance du métier. Hein, quand on est enfant, des fois on dit, surtout vétérinaire, le côté vocation. On peut avoir une imagination de ce qu'est le métier. Donc, je pense que oui, j'avais dans l'idée, ouais, de soigner, réparer, c'était plus apporté. Et puis le fait d'avoir un métier qui est quand même concret, même si des fois les animaux guérissent pas aussi vite ou comme on l'imaginait, mais voilà, se dire on a une action qui peut être visible.
Et c'est vraiment le côté multi-espèces du coup qui a fait pencher la balance par rapport à la médecine.
Oui, il y a le côté multi-espèces. Effectivement, on va toucher à encore plus de pathologies possibles, de soins possibles. Et je pense aussi, ce qui est du coup penché moins dans la balance de la médecine, le côté un peu identification ou de dire est-ce que je vais avoir en seconde, première, la niaque de suivre des maladies graves, des choses comme ça, parce que à côté émotif, sensible, et je sentais moins le fait de travailler sur des pathologies humaines.
Voilà. Très bien.
Je pense que du coup, ça m'a encore plus orientée vers les animaux.
Comment se sont passées tes études alors ?
Alors, écoute, mes études se sont bien passées. C'est vrai que alors, moi, je suis d'une époque où c'était un concours en une année que j'ai passé deux fois. Et donc, c'était un moment de prépa très intense où je me suis privée de quand même beaucoup de choses, de sorties, alors qu'on est quand même à des âges de jeunes, de liberté. Et moi, c'est vrai que je m'étais privée de beaucoup de choses pour réussir le concours. Et ensuite, du coup, je suis partie à Nantes. Et du coup, on retrouve un peu une liberté. Alors, faut prendre ses marques parce que moi, je venais de région parisienne. Mais c'était vraiment un lieu super sympa avec des jeunes vétérinaires étudiants qui arrivaient de partout. Là, les premières années, je dirais, c'était vraiment une découverte d'une région un petit peu plus verte, parce que moi je venais de région parisienne. Ça pouvait me faire peur au début, j'avoue, de quitter la région parisienne, ma famille, mes amis, et puis une sorte de rythme assez citadin. Et finalement, je me suis bien faite à cette école de Nantes, où j'ai rencontré plein d'amis que je garde contact encore 15-20 ans plus tard, donc c'est top. Et puis après, si on rentre un peu plus dans le contenu du déroulé, de nature curieuse, j'ai adoré apprendre des sujets divers et variés. J'avais quand même quelques septembre par-ci par-là, parce qu'à l'époque, on pouvait repasser en septembre des matières qu'on avait pas réussi un peu plus tôt. Donc j'avais quelques septembre par-ci par-là qui me faisaient retrouver copains plus tôt, du coup, fin août. Mais sans ça, ça se passait bien sur la découverte. Après, c'est vrai que les années passant, je me sentais pas forcément avec l'impression d'acquérir le métier ou de devenir une future professionnelle. Et je pense que vers la 4-5e année, ça a commencé un petit peu à me faire peur via les stages, de se dire, finalement, est-ce que la réalité de la pratique canine, parce que c'était assez rapidement quand j'ai fait veto au moment de mes choix en terminale, après prépa, etc., c'était souvent une vision du vétérinaire canin, comme 70% des vétérinaires, je crois, donnent les chiffres de l'ordre. Je me disais, est-ce que ça va me convenir, tout en se disant, j'imaginais pas qu'il y avait 36 000 façons d'exercer. Mais je commençais à me questionner un petit peu sur ma pratique à venir dans les entreprises vétérinaires, je t'avouerai.
Il y a des éléments précis qui ne résonnaient pas chez toi ou qui te faisaient particulièrement peur?
Alors, il y avait aussi des événements qui pouvaient aussi m'ouvrir les chakras et me dire, mais il y a autre chose que vétérinaire praticien. C'était par exemple, alors à l'époque ça s'appelait les rêves, donc on allait rencontrer des vétérinaires qui avaient d'autres métiers, pompiers, travaillant en zoo. Donc, et se dire, ah oui, en fait, franchement, oui, ça doit être en troisième année que j'ai découvert qu'il y avait une facette incroyable, mille et une façons d'être vétérinaire, comme vous dites, et de se dire, ah oui, il y a mille et une façons de pratiquer, voire même on peut commencer d'une façon, commencer de l'autre. Et c'est d'ailleurs un conseil qui m'avait été donné à l'époque, de dire, bah écoute, on commence par de la pratique, c'est toujours une expérience valorisable, ça t'apprend plein de trucs, et puis après, tu verras, on a le temps, en fait, hein, la carrière pro, on a le temps de la faire évoluer. Et puis, donc ça, c'est vrai que ça m'avait ouvert un peu les chakras. Et puis, autre chose, je crois que j'avais pu prendre une option cours de communication. Je ne saurais plus dire si c'est en 2, 3 ou 4e année. Et là aussi, de se dire, et ça reste toujours une des résonances, ou en tout cas, une chose qui me motive, se dire, mais la communication, c'est la clé. Hein, la communication avec nos clients, la communication entre nous. Finalement, on peut faire du bon boulot. Si ça ne se sait pas, si on ne dit pas bien, voilà, donc j'avais vraiment commencé à toucher du doigt certaines thématiques, transversales, parce que maintenant c'est un peu comme ça que je me définis. Je fais de la formation, mais pas sur des compétences techniques, sur des compétences transversales qui sont communication, management, voilà, et qui sont pour moi la clé. Donc voilà, c'était plus se dire, est-ce que je passe pas à côté de choses qui m'intéressent par ailleurs en étant dans la pratique quotidienne du praticien canin. Donc c'était plus cette interrogation de se dire, ah mais j'étais partie un peu bille en tête avec le concours, les études, où finalement le chemin il semble tout tracé, t'es pris dans un train, et puis commencer à un moment donné, à la fin des études, se dire, ah mais en fait ce train, je peux lui faire changer de direction, je peux le ralentir, l'accélérer, voilà, prendre un peu les commandes.
Est-ce que tu penses que c'est cette vision un peu binaire qu'on a de dire on est soit de vétérinaire praticien ou rien, ou cette façon un peu blanc et noir, est-ce que c'est attribuable à l'âge, est-ce que c'est propre aux personnes qui sont attirées par le métier de vétérinaire, est-ce que c'est générationnel, qu'est-ce que tu penses?
Pour avoir discuté encore avec des jeunes, et tu vois, je retourne des fois dans mon ancien lycée, justement pour présenter les métiers vétérinaires, je pense que c'est, il y a une part propre. Alors, je vais commencer peut-être par le côté, on va dire, sociétal, où on se dit, bah le vétérinaire, c'est le vétérinaire praticien, et puis, bah comme majoritairement, ce sont des canins ou mixtes, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'esprit des gens, le vétérinaire et praticien, c'est sûr, bah, c'est ceux qui sont majoritaires, donc qui sont plus connus. Et après, je pense qu'il y a une part d'individuel, parce que moi, j'ai quand même un groupe d'amis, tu vois, sur une promo de 115, d'une quinzaine d'amis, qui, dès l'entrée dans leurs études, savaient, hein, alors, savaient pas le métier qu'ils exerceraient, chercheur, là, actuellement, ou au service vétérinaire, ou dans les ministères ou autres, mais avaient une idée quand même assez précise de je ne serai pas praticien et je partirai en master. Déjà, moi, je suis sortie 2008, tu vois, donc je pense que c'est d'autant plus vrai une fois que le concours a changé en passant par l'école d'agro, où les profils qui sont recrutés maintenant sont beaucoup plus variés. Mais je pense qu'il y avait quand même déjà à l'époque, alors peut-être ces personnes passaient par du concours B ou C, mais en disant il y a autre chose dans la vie. Et c'est vrai que ces personnes un peu sur toute la planète aujourd'hui et exercent des métiers très très intéressants. Ils sont aussi des vrais vétérinaires, parce que c'est ça aussi, des fois, on a pu me le dire, hein, quand j'ai changé ensuite, on va le voir après, mais se dire t'es plus une vraie vétérinaire, bah si. Bon, c'est vrai que moi j'ai toujours resté dans des entreprises, on va voir l'industrie pharma ou en tout cas industrie pet food, donc j'ai toujours resté au contact du milieu, mais même si les personnes qui en sortent restent toujours des vrais vétos, bien sûr. Hein.
Oui, ouais, on en parlera de cet attachement identitaire au métier. Du coup, avec ça en tête, le fait que tu tu te dis tu vas démarrer, tu as un peu le feeling de dire je sais pas si c'est pour moi ce métier de praticien, mais de te dire OK, peut-être que je devrais commencer par là, tu te destines alors à un internat à Atlantia, c'est bien ça?
Oui, alors c'est plus une opportunité qui m'a été offerte et ça c'est génial parce que moi je commençais à faire un petit peu de pratique canine et une place en fait s'est ouverte puisque un copain partait faire un internat au Canada, au Québec, et du coup la place d'internat NAC s'est libérée en milieu d'année et m'a été proposée. C'est vrai que c'est plus une opportunité que j'ai saisie en fait.
Tu faisais des stages là, enfin t'avais fait des stages là-bas, tu connaissais les vétérinaires qui travaillaient
là-bas? Pas forcément. Je connaissais puisque le vétérinaire qui m'a encadré, on peut le citer, Emmanuel Ridi, était aussi à l'école vétérinaire de Nantes en tant que assistant encadrant à l'école auparavant, avant de proposer l'internat dans un centre hospitalier. Donc du coup, je connaissais par là, ouais.
Et les NAC, c'est quelque chose qui t'attirait particulièrement ou c'était encore une fois juste l'opportunité qui faisait que...
Ça a été l'opportunité, ça a répondu à finalement mon idée de départ de se dire « Ah, mais dans le monde vétérinaire, on peut soigner plein d'espèces » et de se dire « Waouh, effectivement, vu qu'à l'époque dans mon cursus, on n'avait pas tellement de cours théoriques ou de pratiques avec les NAC, c'était très limité, je crois, quelques semaines de clinique. » Je me suis dit bah oui, allons-y découvrir. J'avais besoin de me nourrir, c'est vrai que j'ai toujours besoin de nourrir ma curiosité et du coup je me suis dit bah voilà, avec un petit peu dans l'idée de se dire en chien chat, alors que je démarrais, j'avais pas vraiment de compétences, mais il pouvait y avoir déjà le côté des consultations qui se renouvellent tout au long de la journée. Bah avec plus d'espèces, ça va me stimuler et allons-y, effectivement, c'est passionnant, des oiseaux, les reptiles, c'était une expérience incroyable. Hein. On fait un peu de faune sauvage aussi, et ça apportait aussi une autre un peu vision du monde, parce que les NAC ont des besoins aussi fondamentaux d'alimentation, d'entretien, qu'on n'a pas, enfin que moi à l'époque j'avais pas forcément pour les chiens et les chats, sur la nutrition, l'importance. Et ça m'a sensibilisée avec ces thématiques de environnement, de l'animal. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai pratiqué du coup 4 ans par la suite avec une pratique mixte chien, chat, canine et puis NAC. Parfois des périodes exclusives de pratique NAC avec des remplacements des premiers vétérinaires qui avaient des cliniques exclusives NAC. Donc c'était aussi le début d'une époque.
Est-ce que tu dirais que la pratique NAC, c'est, vu ta description, une médecine un peu plus intégrative?
Bah à l'époque, ça me le semblait, en tout cas. Ouais. Et à l'époque, on avait peut-être un petit peu moins un arsenal médical un peu plus limité. Je pense que ça a beaucoup évolué, la médecine, là, grâce aux praticiens. Mais effectivement, il y avait une vision un petit peu plus globale. En tout cas, ça m'a fait prendre conscience de ça, de se dire, bah tiens, après que j'apportais dans ma pratique canine aussi.
Donc, tu fais internat, assistanat, et puis tu pars sur le terrain en clinique parisienne. Comment ça se passe, toutes ces transitions à l'époque?
Toutes ces transitions, je fais un peu des allers-retours entre la région nantaise et la région parisienne, puisque j'ai toujours ma famille en région parisienne, donc c'est facile. Et puis je crois qu'à un moment j'avais peut-être rendu un appart. Et puis comme je connaissais bien Nantes, je suis revenue. Ça se passe bien. C'est des opportunités. Je marche un petit peu au feeling aux opportunités à l'époque pour pouvoir donner des coups de main. Je fais souvent des remplacements de quelques semaines, quelques mois pour voilà. Et ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Et j'aime bien découvrir des petites cliniques, des grandes cliniques, des milieux ruraux, urbains. C'est vrai que c'était sympa, puis c'est vrai que comme j'avais eu ce conseil, et puis c'était un peu, moi, dans l'idée, hein, je sais pas, c'est ce qu'on se dit en général quand on sort de l'école, il faut, pour savoir aussi là un petit peu où on veut atterrir, c'est bien de découvrir multiples façons de pratiquer dans des cliniques mixtes, voilà, parce que chaque clinique est différente, donc ça permet à soi de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire.
Et qu'est-ce que j'ai pas envie aussi, parfois.
Oui aussi, ouais, oui.
À un moment donné, tu te projettes, tu te dis j'ai envie peut-être de me poser, de m'installer, de m'associer, ou pas du tout?
Pas vraiment. C'est vrai qu'après cinq ans après être sortie de l'école, alors que je vois un peu tous les amis se poser, comme tu dis, en tout cas s'installer et rentrer dans un certain confort, moi je continue de me surstimuler, de tester. Et en tout cas, à un moment donné, je me dis, mais c'est vrai que pourquoi moi j'ai pas envie de m'installer, me poser, rentrer dans une routine. Et c'est un peu à ce moment-là que je prends un peu du recul et je me dis, mais en fait, c'est parce que à ce moment-là, j'ai peur de ronronner, de m'installer dans une seule clinique, quoi, et de faire un assistanat et de partir sur plusieurs années. C'est quelque chose qui me fait peur de m'en compter, entre guillemets, de voilà, en tout cas c'est vraiment une sensation sur moi, et du coup je me dis, mais peut-être que c'est pas la solution de changer de structure, de changer d'espèce, voilà, c'est en fait ça me nourrit pas, alors que j'en faisais, pour tout te dire, j'avais plusieurs employeurs, je faisais jusqu'à 80, 85 heures, des jours, des nuits, des week-ends. On se dit, on se sent pas nourri. Je finis par me dire que c'est peut-être pas finalement le nombre d'heures ou la façon de faire, mais que là, j'ai peut-être besoin de découvrir autre chose. C'est vrai qu'il y a un peu un moment de rupture quand même, de se dire, oula, j'ai testé plein de trucs, là, c'est un peu toujours la même chose finalement. Et je me sens pas épanouie, je me sens pas forcément dans le bon costume. Et c'est difficile, hein, parce que t'as fait toutes ces études, ta famille elle te voit douter, et tu te dis, bah non, bah ça va, pose-toi, ça va bien se passer. Puis ça, je dis, bah non, je crois que je vais postuler ailleurs. Et puis bah en fait là, du coup, les doutes arrivant et puis devenant vraiment important, je me suis dit, bah je peux pas décider toute seule, il y a tellement de métiers, donc j'avais commencé à tâtonner, et il y a tellement de métiers possibles, comment décider, puisque c'est vrai que elle est entre guillemets facile, hein, la route à prendre de praticien, du projet initial, on continue sur notre autoroute. Et de dire, alors attends, je fais une pause à l'air d'autoroute, bah du coup là ça soulève plein de questions. Donc je m'étais fait épauler par une coach pour travailler sur voilà, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire un petit temps d'arrêt, et puis moi du coup prendre le temps aussi de chercher les différents métiers.
Et quand tu dis différents métiers, t'avais dans l'idée de rester dans le milieu vétérinaire, ou même pas du tout, tu cherchais de manière plus globale?
Oui, je pense que j'avais dans l'idée de rester dans le monde véto. Bah après, c'est vrai que je me suis toujours dit que fallait utiliser tout ce que j'avais acquis, le réseau, les connaissances. C'est un milieu que j'adore, les vétos, ils sont super, on est curieux, enfin... Je me disais, voilà, faut pas non plus tout balancer. Mais franchement, bah après, on le redira, mais je suis pas quelqu'un qui me formalise. Et c'est vrai que, pourquoi pas sortir du monde véto. Mais je pense que, par simplicité au début, je cherchais aussi à rester dans l'univers vétérinaire. Parce que, en fait, c'est juste... En fait, quand je regardais les différents métiers, des fois, on se dit, bah on peut être chercheur. En fait, il y a 10 différents échelons, et se dire, bah, imaginons sinon même un immeuble, il y a différents étages. J'ai l'impression que je suis pas dans le bon étage, mais l'immeuble, elle me convient bien, quoi. Donc, c'était plus ça, je pense. Se dire, voilà, endossons, c'est peut-être pas cette blouse ou cette casaque, le costume là. En tout cas à ce moment-là, hein, parce que on le redira aussi, maintenant j'ai une activité mixte, donc c'est que la clientèle me convient bien aussi, là à temps partiel. Donc voilà, il faudrait trouver son équilibre et stimuler les petits neurones au moment M.
C'est intéressant ce que tu dis sur cette notion que tu avais de, bah, qu'il y avait plein de choses qui s'offraient à toi, mais que tu savais pas exactement ce sur quoi tu allais jeter ton dévolu, parce que il y a aussi à contrario, je pense, beaucoup de personnes, beaucoup de vétérinaires que moi j'ai pu rencontrer, qui sont plutôt dans la croyance limitante de se dire je ne suis que véto, je n'ai pas, je ne suis pas capable ou je n'ai pas les compétences requises pour sortir de ce métier de praticien.
Ah oui. Bah, c'est vrai que ce qui m'en a fait sortir de cette croyance, parce que c'est vrai que quand tu rentres dans un moment de doute, un petit peu de bah quand t'es dans le jus, hein, c'est-à-dire dans la soupe, je sais pas comment ça m'est venu, mais j'ai pris contact avec des vétérinaires peut-être dans l'industrie. Je sais même pas, à l'époque, LinkedIn n'existait peut-être même pas, tu vois, peut-être par vidéo ou des outils, ou en appelant peut-être directement les sièges de laboratoire. Et j'ai eu des échanges avec des vétérinaires qui m'ont partagé leur expérience. On disait, bah, moi, j'ai fait ci, ça. En tout cas, n'hésite pas. Et c'est vrai que, je pense, une personne m'a dit, en tout cas, n'hésite pas. Les gens aiment parler de leur cursus, aiment parler. Donc, faut pas hésiter à toquer aux portes. Et c'est vrai que, quand je suis des fois en coaching avec des vétos ou des non-vétos, c'est un conseil que je donne en disant, mais en plus, ça n'engage à rien. Faut pas hésiter à aller solliciter, toquer des portes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils, notamment ce que vous proposez aujourd'hui, qui vont donner ces idées, donner à voir les différentes facettes. Mais des fois, oui, aller prendre un café, au pire, la personne n'a pas le temps ou elle n'est pas disponible ou elle vous dit non. Mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup appris de se dire. Deuxième croyance limitante à faire sauter, c'est que je me souviens quand il y a question pour un champion grandes écoles, on y est, donc ça veut dire qu'on sort d'une grande école, c'est pas anodin. Donc on a des compétences qui sont phénoménales, et même si on a l'impression que parfois on peut être peut-être que soignant, que vétérinaire, je pense qu'on est bien au-delà. On est hyper débrouillard, on est en rapport avec les gens, enfin voilà. Et je pense que pour partager, hein, pour avoir été dans l'industrie, nos profils intéressent une multitude d'entreprises, une multitude de professionnels. Moi, quand je suis avec des coachs, des RH, ils ont les yeux, ah bon, t'es vétérinaire. Bon, après, il y a toujours la question, ah pourquoi? Voilà, parce qu'on peut être les deux, on peut être passionné de coaching, passionné de pratique canine, pratique que sais-je, et donc on n'est pas que véto, on est énormément de choses.
Tu prêches à une convaincue.
Oui. Oui, et c'est agréable justement de se parler, de voir que aussi on n'est pas tout seul à penser ça. Donc merci Sophie et merci Thémavet. Parce que à des moments, oui, j'ai pu me sentir un peu seule, me dire, moi j'ai même bossé dans une boutique, j'ai vendu j'avais des connaissances, je sais pas, c'était chez Baccarat, j'ai fait de la vente quelque temps. Enfin, je veux dire, on est tout, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Moi, c'est mon mantra. Je pense que c'est pas toujours évident, hein, quand on a des doutes. Moi, j'ai déployé beaucoup d'énergie, mais notre diplôme, il nous ouvre toutes les portes. Hein,
Complètement. Excellente transition d'ailleurs.
Ah.
Tu rentres chez Hills comme responsable commercial finalement, et tu y restes 5 ans. Qu'est-ce que tu y apprends? Comment ça se passe là-bas?
Alors, bah, je dirais c'est également une opportunité, hein, de rentrer, puisque bah, à l'époque, donc moi j'ai fait mon coaching, je commence à me dire bah oui, en fait. Qu'est-ce que je cherche comme métier dans le monde véto? Bah, c'est rester en contact avec le monde vétérinaire, être en contact avec du monde. Mais il faut que ça bouge. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'idée, c'était de se dire, être enfermé dans une salle de consultation du matin au soir, ça me convient pas. Donc, faut que ça bouge. Et donc, quel métier existe, etc. Alors, soit il y avait des métiers vétérinaires techniques, hein, ou des postes de commerciaux. Et c'est vrai que à l'époque, déjà, ils pouvaient chercher à faire rentrer avec une double compétence que je n'avais pas encore à l'époque, mais c'est vrai que Hills m'a laissé ma chance de rentrer sans cette double compétence et du coup de me former à des pratiques commerciales. Qu'est-ce que j'y apprends? Bah, j'y apprends déjà à travailler dans une grande entreprise qui est structurée, qui a des pratiques managériales, qui va du coup nous donner des objectifs et puis valider s'ils sont faits. et puis m'aider à les faire si besoin. Donc c'est très très enrichissant de voilà, en tout cas d'être dans une entreprise hyper bienveillante. Enfin voilà, c'est vraiment ce que j'ai apprécié de me sentir à ce moment-là vraiment à ma place, d'être nourrie par le côté, j'ai toujours besoin de me nourrir sur un sujet, donc là apprendre sur la nutrition aussi et pouvoir la transmettre, ça commençait aussi hein, à transmettre aux vétérinaires des pratiques en nutrition, mais aussi sur comment communiquer aux propriétaires les informations, comment s'adapter aux besoins du client, aux besoins de l'animal, c'est hyper important. L'idée, c'est que finalement notre pratique, notre démarche médicale peut se rapprocher parfois de la démarche commerciale où on va aller récolter les informations, ensuite, on va nous faire un examen et puis proposer, pourquoi pas des petits examens complémentaires et puis proposer une solution. Et donc, je me dis, toutes mes études véto, elles ont servi aussi à comprendre ça. Alors après, c'est différent forcément au quotidien, mais voilà, je me dis c'est pas complètement décorrélé. Et en tout cas, je m'éclate dans cette entreprise à ces postes-là. Je me sens vraiment à ma place et tout en étant au contact des cliniques vétérinaires, puisque moi c'était un poste où je visitais 5 cliniques par jour sur une centaine de cliniques en région parisienne. Donc du coup, je vois plein de confrères, plein de pratiques différentes, des propriétaires qui attendent, enfin voilà. Et puis, je continue à me former. C'est ça qui va me permettre aussi de reprendre sans trop de difficultés des années plus tard. C'est que je suis toujours restée dans le quotidien vétérinaire sans trop quitter la pratique, quoi.
Tu gardes un pied dans la porte.
Exactement.
Et donc, ton MBA... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un master en business administration, c'est une formation, d'ailleurs, tu vas nous le dire. Moi, j'en ai fait un, mais toi aussi. Donc, dis-nous un peu, ce que c'est, comment ça se passe, d'où te vient l'idée. Je pense que tu le fais pendant que tu es encore chez Hills.
Oui. Tout à fait. C'est dans l'idée, qu'il y a beaucoup maintenant de vétérinaires dans les entreprises, l'industrie pharma ou pet food qui ont des doubles compétences. Donc c'est vrai qu'il y a des compétences qui peuvent être acquises en management, en marketing, puisqu'il y a différents métiers, hein, en commercial. Les gros labos sont en différentes branches et effectivement il y a des compétences à acquérir. Et notamment dans l'idée de si je veux évoluer dans ces entreprises ou si je veux, moi j'aime bien en fait aussi asseoir mes compétences et les valider par un diplôme. Donc là, ça se passe en une année avec une semaine tous les mois. Donc c'est vrai que j'avais un accompagnement financier de temps. Hein. Ça se fait conjointement avec la société pour que je prenne son temps de vacances et quelques jours qui me sont attribués par l'entreprise pour aller du coup me former. Alors moi, le MBA que j'avais choisi, c'était communication et marketing santé. Soit il y a des MBA qui sont très généralistes, où tu peux être du coup en contact avec des professionnels de tous les univers. C'est vrai que moi, j'avais choisi quelque chose d'orienté santé pour me dire il y a sûrement des parallèles entre l'hôpital, la santé humaine, etc. Et puis j'ai pas été déçue parce qu'effectivement ça bouge beaucoup. Il y avait beaucoup de passerelles possibles et j'étais en contact du coup avec des personnes qui pouvaient être pharmaciens, médecins ou qui travaillaient à la communication dans les hôpitaux. Enfin, voilà, j'avais quand même contact avec des profils variés, tout en restant dans des univers qui pouvaient un peu se ressembler, quoi.
Et ça, tu le fais à quelle période pendant que tu es chez Hills?
Je dirais au bout de quelques années.
Donc tu restes encore un peu chez eux après.
Oui.
Qu'est-ce que ça vient t'apporter concrètement dans ton job chez Hills et peut-être dans ton quotidien aussi.
Dans mon job chez Hills, moi ça m'a encore une fois un petit peu ouvert les chakras en disant il se passe des choses ailleurs, commence à arriver un peu le courant tournant numérique avec des choses qui peuvent se mettre en place à l'hôpital. Moi ça m'a beaucoup aussi, j'ai commencé à toucher un peu l'expérience client, donc qui sont des choses un peu intermédiaires entre la communication et le marketing, mais pour se dire oui, en tout cas ça m'a conforté dans l'idée que ce que j'imaginais des cliniques vétérinaires en se disant il faut qu'on s'intéresse à nos clients ont des attentes, bah comment y répondre, et que oui, on peut aller au-delà des demandes, et oui, on peut avoir des pratiques comme ci ou comme ça, et ça m'a confortée dans l'idée que oui, j'étais dans le bon, et du coup, ça m'a reboostée, je pense, auprès des structures pour faire des propositions, des fois d'offres commerciales, des animations, ou apporter des sujets, voilà, parce que j'avais des clients vétérinaires qui pouvaient être intéressés par des thématiques, hein, mettre en place des nouveaux outils. C'est vrai que moi, j'adorais découvrir toutes les innovations et ça permettait d'en parler, ouais. Et ça fait peut-être plus après la passerelle avec le poste suivant de business partner, où là, je développais vraiment des outils, des pratiques un peu plus numériques dans les cliniques. Mais voilà, c'est dans l'idée de pouvoir rapporter aussi aux cliniques qu'il se passe des choses ailleurs. Et voilà, moi, j'aime bien un petit baluchon ramener ce genre d'idées, quoi.
Donc, ouais, cette notion de communication qui revient, de curiosité, et puis peut-être que l'MBA aussi, alors peut-être que je parle pour moi, mais ça t'a apporté aussi peut-être une confiance supplémentaire dans ta démarche.
Oui. Bah c'est vrai que tu parlais de croyances limitantes ou se dire on est que veto. C'est vrai que à l'issue de cette année de MBA, j'ai terminé ma genre. et du coup, je fais ah bah merci. Merci. Et c'est vrai que je pense à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait là, ça y est. Enfin, je veux dire, t'es vétérinaire, MBA. À un moment donné, c'est vrai que des fois, on peut avoir des croyances limitantes ou se dire, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et là, je me suis, enfin, tout le monde disait autour de moi, waouh. Hein. Je pense que là, j'en ai vraiment pris conscience. Donc, et ça a été un long chemin pour se dire, oui, je peux, je suis compétente. Vas-y, fonce, quoi. Jusqu'à maintenant, j'étais quand même beaucoup empreinte de doutes, de est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas, etc. Ça pouvait m'être apporté dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'avec le MBA, je me suis dit, bon, maintenant, c'est bon, t'as plus rien, entre guillemets, à prouver. Parce qu'après, même les cliniques vétérinaires pouvaient me stimuler en disant, oui, mais toi, tu travailles en labo, t'es un peu, voilà, t'es pas indépendante. Là, je pense que j'ai pris un peu de recul en me disant oui, mais bon, à un moment donné, peut-être j'arrivais autour d'une trentaine d'années, c'est bon. J'ai pas besoin de me justifier tout le temps de mes choix, quoi.
Ah oui. Ouais, ça, c'est souvent la peur qui part hein, chez les autres. Bon, ben chouette. Est-ce que la clinique, elle te manque à ce stade? Tu disais que tu étais encore quand même pas mal au contact via les cliniques qui étaient tes clients. Est-ce que tu commences à te dire « Ah, oh, je mettrais bien plus qu'un pied dans une clinique ?»
En fait, quand je travaille dans l'industrie, je suis vraiment nourrie par ailleurs et j'ai pas une sensation de manque. Le manque qui pourrait, ce serait le côté manuel, puisque je suis sur des professions plus intellectuelles. De chirurgie, tu vois, je te dirais, ou de toucher, quoi, hein, les animaux. Mais sinon, non, le quotidien dans une clinique me manque pas spécialement à ce moment-là. Non, parce que je suis vraiment, j'ai plein de... Alors, j'essaie de pas partir dans tous les sens, hein, mais je suis beaucoup des congrès, médecine, tu vois, enfin, je fais... Donc je suis vraiment nourrie par ailleurs et puis bah mes jobs sont très prenants aussi hein donc
Et qu'est-ce qui te motive parce que en 2018 pardon tu passes chez MSD, comment elle se passe la transition, t'en as un peu marre, c'est une opportunité encore une fois
Oui, c'est vrai que on peut se dire le parcours est jalonné d'opportunités et certains vétérinaires qui se reconnaîtront m'ont déjà dit c'est pas des opportunités, c'est que t'as construit ton petit chemin et que voilà, finalement t'as planté ta petite fleur et puis t'arrives au bon moment pour l'accueillir entre guillemets. Mais bon, c'est vrai que j'ai quand même eu voilà, je fonctionne pas mal à des opportunités ou bah c'est vrai que au bout de je sais pas 5-6 ans sur le poste chez Ils, il y a pas forcément de possibilités d'évoluer en interne. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression, au bout de 6 ans, d'avoir fait le tour de ce métier. Et donc, je me dis, bah allons voir peut-être aussi... Je pense qu'il y avait aussi un peu des une lumière, une bougie qui t'attire en disant, est-ce que c'est pas différent dans la pharma? Est-ce que ce serait pas intéressant que je me fasse une expérience dans le monde de pharma? Parce que là, j'étais en pet food. Effectivement, je rentre sur ce poste qui est en plus très transversal, très sympa, et alors qui va m'amener beaucoup, beaucoup de déplacements et de dormir à l'hôtel, ce que je ne faisais pas avant, et qui finalement, au bout d'un an, ça va être ça qui m'a aussi fait que je suis restée un an sur le poste de business partner à sillonner toute la région du Nord pour aider les cliniques à développer potentiellement des plans de santé, leurs pratiques Caitrenly, leur communication, leur page Facebook, choses comme ça. C'était très transversal.
D'accord, donc toi, tu vas dans les cliniques, tu discutes avec eux, tu identifies leurs besoins spécifiques et puis tu les accompagnes sur ces besoins.
Ouais, la mise en place, on peut faire des formations, des soirées.
MSD sont très axés là-dessus, hein, je pense, de manière
Oui. Ouais. C'est leader. Ouais.
Quelle perspective sur le monde du travail te donnent ces deux entreprises en termes de méthode de management, gestion du RH, toutes ces choses?
La perspective, c'est qu'effectivement, une entreprise, c'est multifacette et que c'est très important de prendre en considération et de gérer ces différentes facettes et que ça fonctionne bien mieux. Alors c'est vrai qu'on est sur des très grandes échelles, hein. Donc c'est obligé que ces entreprises soient structurées, mais la perspective, c'est de se dire que ça devrait être la même chose même dans des petites entités. Donc ça me permet, moi, d'identifier des leviers, des actions, des choses, en tout cas de me conforter que ce que j'imaginais dans les plus petites entreprises, de se dire bah j'étais un peu laissée comme ça, sans objectif, dans une structure, c'est ce que je dis souvent maintenant dans mes formations ou dans des visioconférences sur la motivation ou autre. On est tous là pour soigner les animaux, c'est ça qui nous motive individuellement le matin, mais il faut avoir quelque chose de collectif qui nous réunit, parce que sinon on peut travailler n'importe où. Donc pourquoi je travaille dans cette structure? Ça m'avait manqué, donner le sens, je pense, dans mes premières expériences professionnelles, et de me dire, bah voilà, effectivement, quand il y a ça motive, ça donne envie. Et avec toujours dans l'idée de transmettre, j'avais toujours en fil rouge que je reviendrais accompagner au sens large les structures en ayant moi le bagage et l'assise et la confiance en moi pour apporter tout ça. Mm. Quand je le dis, ça fait un peu prétentieux même.
Ah, pas du tout.
Non, mais je suis pas comme ça. Mais je me dis voilà, d'apporter une vision, un éclairage, de se dire.
Quand j'ai fait mon MBA, je me suis vraiment dit « Oh, waouh, pourquoi on m'a pas enseigné tout ça, ou au moins la moitié de ces choses ?» Et j'ai pris conscience que j'aurais vécu mon métier bien différemment et que j'aurais été beaucoup mieux outillée. Donc, je pense que c'est pas du tout prétentieux. C'est juste dire que tu as des compétences supplémentaires et que tu as envie de partager. Au contraire, c'est plutôt c'est plutôt généreux.
Oui, je pense. Oui, oui.
Donc, c'est un peu le rôle de business partner qui te met la puce à l'oreille, et puis cette idée de manque à gagner qu'ont les cliniques vétérinaires à leur apporter ce que tu sais. Il y a un moment vraiment de rupture. Tu parlais de déplacements qui étaient compliqués. Ça faisait combien de temps que tu te projetais sur potentiellement ce métier de coach
un jour se lancer en indépendant? Je pense que c'était c'est en toile de fond, hein. Comme je te disais, quand mes premières petites formations, j'avais 2 heures de cours de com en disant, ah, mais c'est trop ça, j'ai envie d'apprendre et de transmettre ces outils. Mais après, j'ai toujours été dans le côté raisonnable et forme-toi, sois compétente, quoi. Pour pouvoir transmettre aux autres, il faut se sentir soi-même à l'aise. Et donc, c'est vrai qu'après même le MBA, où quand même je le disais là, j'ai une expérience, mais voilà, se lancer en indépendante, c'est autre chose. Faut du réseau, faut être qu'on toque à ta porte ou que toi tu toques à des portes. Et puis j'avais toujours l'idée, comme je te dis, est-ce que je suis pas passée dans la pharma, Et puis finalement, il se trouve que la structuration des entreprises pet food et pharmaceutiques, ça pouvait se rapprocher, même si la pharma est beaucoup plus encadrée avec la pharmacovigilance, les lois anti-cadeaux, etc. Donc il y avait juste un petit peu ça de différent, mais sinon c'était structuré pareil. Et du coup, après un an d'expérience, je me suis je crois qu'à un moment faut se lancer, quoi. Hein. Sinon on n'ira jamais, quoi. Hein. Mais voilà, avec toujours quand même le doute de, comme la première reconversion, de se dire on ouvre une porte où il y a plein de possibilités, on ne sait pas où on va, donc ça fait toujours peur.
Et peut-être notion que tu t'écartes encore un petit peu plus de ce métier praticien ou pas du tout?
Alors c'est pas une question qui se pose parce que je le vois pas comme ça et puis pourquoi pas, quoi. Non, l'idée c'est de moi me faire plaisir aussi. Je pense que quand t'as une double compétence, que tu commences à savoir ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire. Après, je pense que c'est un peu un luxe que je m'offre. C'est le fait de faire ce que j'aime dans mon travail au quotidien. Donc se dire que on a la chance, et c'est pareil, s'il y a des personnes qui des fois s'interrogent, on peut diminuer, lever un peu le pied et passer à de 4 à 3 à 2 à 1 jour par semaine. Donc pas prendre de risques financiers, par exemple. Donc, moi je sais que si un jour j'ai besoin, comme j'ai la confiance, et puis j'ai un réseau d'amis qui me dit mais tu refais un stage, tu viens, et c'est reparti. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc c'est plus en fait, l'idée de redevenir praticien, c'est à la fois, en toute transparence, parce que l'activité de coaching, c'est pas une activité temps plein. J'ai pas envie de partir sur des missions avec des personnes en dehors du monde veto et prendre des choses que je saurais pas faire, qu'il faudrait que j'apprenne, qui sont trop différentes. Donc, je préfère me concentrer sur des missions que j'affectionne. Et à côté, continuer de me nourrir de la vraie vie des veto, entre guillemets, parce que je sais que les praticiens mix ruraux et qu'un canin, le monde vétérinaire apprécie avoir quelqu'un qui connaît leur quotidien, même si je fais pas le quotidien de tout le monde, je fais pas des urgences, je fais pas de rural, mais voilà, connaît le métier. Comme ce qui m'intéresse aussi, c'est les attentes des propriétaires. Je les suis en contact avec eux tous les jours, et puis ça me nourrit aussi d'être au contact des animaux et puis d'avoir de rechercher une démarche médicale. Même si j'ai choisi du coup une pratique où je suis toujours avec d'autres collègues parce que je peux avoir des doutes et que ça me rassure d'être dans une équipe. J'ai vraiment choisi une clinique qui me correspond à ce jour.
Donc c'était toujours une évidence pour toi que tu ferais quand tu as commencé à te former en coaching, que tu ferais moitié-moitié.
C'était une hypothèse de se dire je pense que c'est important, intéressant d'avoir ce mix. Ouais. Ça, après je dis pas que je le ferai toujours je fonctionne un peu sans barrière, donc mais je trouve intéressant d'avoir ce mix là. Ouais.
Et comment est-ce que tu te formes en coaching alors?
Alors, ça tombe, en 2020, j'ai commencé. Alors, j'étais en contact avec des coachs. J'avais fait un coaching moi-même en 2013. Je suis en contact avec des coachs dans le monde veto aussi. Et c'est se dire que parfois, quand on accompagne les structures, au début, c'est ça. Il y a des fois des choses plus profondes, des choses qui sont pas dites, et effectivement, je sens le besoin de se former sur des outils, des pratiques, une écoute, pour pouvoir que les gens soient en confiance et puissent livrer finalement le problème, et puis qu'on puisse travailler sur les thématiques, de mieux travailler ensemble. Et là, c'est pareil, pour choisir une école de coaching, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, j'ai fait des portes ouvertes, j'ai questionné différentes personnes. J'avais commencé aussi à faire des formations sur des thématiques comme la PNL, choses comme ça. Et du coup, j'ai trouvé une école sur Paris qui propose une formation qu'ils appellent intégrative. C'est-à-dire qu'on va aller piocher un peu dans différents courants, parce que ça, le coaching, il peut être un peu imprégné de différents courants, voire des courants un peu thérapeutiques, des courants d'accompagnement, donc qui sont analyse transactionnelle, systémique, PNL, voire même de la psychodynamique, je crois, c'est dérivé un peu de la psychanalyse. Enfin, on va toucher un petit peu à tout, une approche humaniste avec Carl Rogers, etc. Et du coup, là, c'est une formation qui se passe en une dizaine de mois, quelques jours par mois, avec du travail entre deux, travail en collectif, pour petit à petit prendre une nouvelle posture. Où là aussi, je me dis finalement, entre la démarche en pratique, la démarche commerciale, la démarche en coaching, le canevas est pas toujours très différent. On va aller questionner les gens sur leurs besoins, et puis on va creuser, et puis... Alors avec le coaching, c'est les personnes qui vont apporter leurs propres solutions, hein, c'est un peu différent, mais au final, la trame se déroule un petit peu comme ça. Avec du coup, pour expliquer un peu aux auditeurs la différence et ce que j'affectionne dans le coaching, la différence entre un coaching et de la thérapie, c'est que on va s'engager sur une période, un nombre de séances qui vont durer en général 1h30 hein, sur un coaching individuel, et que du coup, on va travailler... au fur et à mesure des séances, donc on est un peu libre dans les séances, voilà, on navigue, mais on a quand même un objectif sur lequel on va travailler, et on a une clôture, donc ça s'arrête à un moment donné. Donc ça, c'est aussi un côté efficace que j'aime bien dans le coaching.
Un début, une fin.
Ouais, c'est ça.
On revient un peu à ce côté médical dont tu parlais, cette méthodologie finalement bien claire et cadrée.
Tout à fait.
Est-ce que tu parlais de différentes différents courants, de différentes méthodes. Est-ce que l'idée, c'est que voilà, tu pioches un peu dans tout et tu utilises ce qui te plaît, ou est-ce que l'idée, c'est de dire cette méthode-là, vraiment, c'est la méthode qui me convient, je vais utiliser ça, toi personnellement et dans le monde du coaching en général?
Alors, en fait, tu peux avoir des écoles de coaching qui sont vraiment orientées sur l'analyse transactionnelle, et donc du coup, tu vas avoir ta boîte à outils, mais c'est vrai que ces boîtes à outils sont très vastes, et donc on s'adapte hein, à chaque fois aux besoins qu'on imagine du coaché pendant la séance. Moi, j'aime bien l'idée d'aller piocher et de pouvoir. Alors après, il y a aussi des coachs qui disent travailler sans outils, ou vraiment ce qu'on appelle coaching à main nue. Ça va uniquement être des techniques d'écoute et de reformulation et de questions. Sans aller faire un petit questionnaire, etc. Moi, ça dépend en fait, en fonction des séances. Des fois, moi, ça me rassure aussi d'utiliser un outil parce que ça peut aller un peu plus vite pour qu'on ait les mots en commun. Et puis parfois, je vais laisser vraiment les personnes cheminer. C'est vraiment variable. Du coup, ça permet, je trouve, d'avoir la liberté de choisir tel ou tel outil. On peut par exemple commencer un coaching par un questionnaire de personnalité, si la personne et un peu perdu, bah là c'est vrai qu'on va utiliser un modèle qui va donner des mots sur voilà, quand je me décris, je suis quelqu'un, je sais pas, les questions dans le questionnaire, ça peut être j'ai besoin de rencontrer des gens, côté empathique, enfin côté plutôt relationnel, extraverti, ou je me ressource, j'ai besoin d'être seule pour me ressourcer, voilà. Et là du coup, on va pouvoir poser des mots, et la personne va me dire, bah oui, effectivement, je suis plus comme ça. Bah, je suis plus comme ça dans tel moment, tel autre. Donc, je trouve que ça peut accélérer certaines fois. Et puis après, d'autres moments, on se dit, bah non, faut un temps de respiration. Ouais, ouais. Exactement.
Et, est-ce que parfois parce que tu définis bien clairement la différence entre coaching et thérapie, et là, ce que tu décris, c'est quand même une recherche de soi, hein, quelque part, une meilleure compréhension de soi, pour ensuite la mettre au service de l'autre. Est-ce que parfois, il t'arrive de recommander aussi qu'une personne aille en thérapie, peut-être avant ou en parallèle? Je me dis, c'est un terrain un petit peu... faut être prudent quand on suggère ce genre de choses. Ouais. Mais...
Tu fais bien de poser la question, parce que je l'ai pas évoqué, mais ça fait partie, en fait, on a en général un premier temps d'échange. Donc, imaginons une personne... un changement, en fait, le coaching, c'est dans l'idée d'accompagner une personne à un changement. Soit j'arrive à changer tout seul, soit je sens qu'il y a un petit blocage et Alors, je peux aller effectivement directement voir un thérapeute, un coach, en parler à mes collègues, écouter Thémavet. Il y a peut-être des groupes, je sais pas, on peut questionner différents groupes, différentes associations. Et hop, imaginons, je me dis effectivement, est-ce que ce serait pas un coach professionnel ? Après, il y a aussi des coachs de vie, des coachs, des love coach. Hein, on a énormément, le mot est très très divulgué et veut dire tout et rien. Donc, ce que je conseille, c'est de chercher un coach professionnel. Il y a des diplômes du coup qui encadrent les coachs professionnels, donc où l'objectif sera professionnel. Après, on n'est pas tous d'accord, même entre coachs. Sur ces thématiques, moi, comment je vois les choses, c'est que j'ai un objectif professionnel. Donc, je suis en train de remettre en question ma pratique actuelle. Je veux changer de métier ou je suis pas bien. Je veux regagner de la confiance. Je veux travailler avec moins de stress. En tout cas, ça va être un thème pro. Évidemment, nous ne sommes ni pro. Et puis après, on change de costume personne. Nous sommes une personne dans son entièreté. Et évidemment, on va aller toucher à ça. Simplement, la différence, c'est que, et moi, c'est une question que je pose toujours, est-ce que, comment tu te sens en ce moment, si la personne est trop fragile, pas bien, effectivement, l'idée, c'est de s'orienter tout de suite vers un thérapeute. Donc après, il y a différentes thérapies, hein, les thérapies qui sont, je dirais, prouvées par l'évidence base médecine, c'est les thérapies courtes comportementales, TCC. Et après, il y a la Gestalt, il y a, je sais pas, le MDR, il y a... différents types, même les psychologues cliniciens, différents types de psychologues, etc. Donc ça, c'est vraiment très important pour la personne d'être aussi, en tout cas pas, suivie en thérapie, puisque nous, en coaching, nous allons naviguer sur un objectif professionnel et sur des... On va travailler en fait sur mes comportements. C'est-à-dire que quand il se passe ça, j'agis comme ça, ou mes émotions agissent comme ça. Quand j'ai une chirurgie, je prends cet exemple parce que j'ai pas mal d'amis, voilà, quand j'ai une ovario de chienne de 40 kilos toute seule, je ne dors pas la nuit la veille, etc., etc. Alors, on va pas forcément travailler à être serein, peut-être qu'on trouvera, on prendra la décision d'arrêter de faire ces chirurgies de chienne de 40 kilos seule, mais en tout cas, on va cheminer là-dessus et on va travailler sur des comportements, les émotions. Si effectivement on vient toucher des choses plus psychiques, je dirais mentales, des automatismes qui sont liés à l'enfance ou des choses plus intérieures, eh bien là, c'est là que le coaching s'arrête en disant, bah écoute, on voit, tu vois, on a touché du doigt que ça appelle ci ou ça à ce moment-là, et bah je t'invite à en parler à ton thérapeute prochaine fois. Mais nous, on va pas aller toucher ces choses-là. Et enfin, pour moi, c'est très important de vraiment faire le distinguo. Entre ce que je suis capable de faire en coaching, ce pourquoi notre contrat est établi. Donc voilà, acquérir de plus de confiance, travailler sur la gestion du stress, mais tout en respectant les choses plus profondes, intérieures, plus subjectives de la personne. Voilà.
Je suis contente que tu évoques...
C'est clair aussi, très clair. Des précisions.
Ben, j'allais justement dire, je trouve ça très bien que tu évoques les thérapies brèves. Moi, je suis encore étonnée par le nombre de gens qui ne connaissent pas aujourd'hui, qui pensent encore que... alors, il existe encore les deux écoles, hein, la psychanalyse et les thérapies, et les thérapeutes cliniciens et les thérapies brèves. Mais beaucoup de gens pensent aujourd'hui encore que thérapie égale quelque chose de long, fastidieux, sans objectif précis, autre que de parler de son enfance et des traumas potentiels. Et vraiment, je trouve ça important d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'école thérapie brève qui se développe. Peut-être que tu veux élaborer un peu là-dessus.
Bah après, oui, je peux compléter un petit peu en disant que notamment dans les écoles de coaching, on avait par exemple une enseignante qui est issue de la thérapie, parce qu'il y a des coachs qui sont thérapeutes, des thérapeutes qui deviennent coachs, mais simplement les contrats de coaching ou les contrats qu'ils établissent avec en tant que thérapeute sont entre guillemets pas les mêmes, quoi. On va pas travailler sur les mêmes choses, ça c'est très clair. Et j'avais du coup une enseignante qui était issue de côté plutôt anglo-saxon. Et en disant, bah, les psychanalyses, même aux États-Unis ou en Australie, ce ne sont plus des thérapies de psychanalyse toutes les semaines, 2 heures avec son thérapeute pendant 20 ans, ça reste la psychanalyse en France ancrée un petit peu comme ça. Mmh. La psychanalyse a beaucoup évolué peut-être sur les 20-30 années. Alors je sais pas, je connais pas particulièrement ce courant, mais qu'il y a différentes façons de le pratiquer. Mais effectivement, pour nous, peut-être comme on a cette idée hein, de la thérapie, que il faut être vraiment pas bien au fond du trou ou non, c'est vrai qu'on peut être bien dans sa peau, mais trouver que c'est pas normal d'aller travailler avec la boule au ventre et de se dire bah tiens, effectivement, je vais travailler quelques mois dessus. Ça nous apportera ce que ça nous apportera hein, en thérapie du coup. Mais effectivement, il y a des méthodes techniques rapides, bref, pour travailler sur des thèmes très particuliers. Et puis par ailleurs, si on veut travailler en thérapie des années, ça ne s'arrête jamais. On est d'accord qu'on peut grandir. Et ça, c'est vraiment un choix personnel. Par contre, voilà, vraiment faire le distinguo quand on se forme au coaching, c'est s'engager à par un code de déontologie, hein, d'ailleurs, de pas aller toucher. Alors après, la frontière, elle est pas toujours facile, hein, puisque ça appelle beaucoup de choses. Hein, les séances de coaching peuvent être très intenses. Simplement, nous. C'est à nous, les coachs, à travailler là-dessus pour se dire, bah, là, j'ai pas les compétences. Là, c'est pas ce que la personne m'a demandé. On va toucher à autre chose et, bah, voilà. On va faire un petit pas de côté, accueillir et potentiellement les émotions, les choses qui viennent, remercier que la personne les partage, parce que c'est déjà énorme de les formuler, mais de dire, voilà, bah, là, ce sera quelque chose à aller creuser, à côté.
Très bien. Merci pour ces précisions. Toi, tu pratiques à la fois le coaching individuel et aussi collectif. Est-ce que tu as des différentes mm-hmm. approches entre les deux?
Oui, alors, comme je disais, un coaching individuel, enfin, ce qui rassemble le coaching individuel et collectif, c'est qu'on part d'un objectif professionnel avec un nombre de séances. C'est vrai que pour le collectif, c'est un petit peu différent puisque, on va avoir une demande d'un commanditaire et puis ensuite, on peut, travailler avec des temps individuels sur chacun, donc recueillir les informations, comment toi tu vois les choses, etc. Et puis après, se mettre en collectif et travailler ensemble à résoudre, ou en tout cas, à tous ensemble, aller vers l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, c'est vrai que du coup, ça demande de jongler entre des temps individuels pour recueillir des informations et ensuite essayer de trouver les solutions tous ensemble. Après, il y a différents types de coaching d'équipe, je dirais, et j'ai participé à des assises dans le monde du coaching la semaine dernière, en se disant que le coaching d'équipe n'est pas très connu d'ailleurs, et on est parfois un peu plus sur de la facilitation, donc on va faire des ateliers, on va faire des ateliers de post-it, des choses qui vont nous rassembler, et on pourrait aussi avoir du coaching d'équipe à main nue, où moi j'assisterais par exemple dans la clinique à des fonctionnements de réunion et de dire « Ah, bah comment ça se fait que là, il y a qu'une seule personne qui prend la parole, que les autres sont en retrait, et que voilà, aller décortiquer le fonctionnement de cette équipe pour être un peu plus fonctionnelle, mieux organisée, voilà, trouver, on va dire, des pistes de solutions sur telle ou telle thématique. C'est ça qui va différer. » Parfois, au moment d'un coaching d'équipe, il y a une personne qui peut être plus en difficulté que d'autres. Et donc, ça peut être de l'orienter, elle, vers un coaching individuel avec un autre coach à ce moment-là, si c'est un peu dur pour elle de gérer ce moment-là. En tout cas, ça multiplie les contacts et les liens et la richesse. En tout cas, c'est beau de voir grandir les équipes ensemble, quoi.
Et ça doit être très intense, j'imagine, vu ta description, en termes d'attention et d'écoute et d'accompagnement.
Oui. Et ce qui me fait rebondir, du coup, au fait que dans le monde du coaching, il y a quelque chose qui fait qu'on se doit, la plupart, hein, on est adhérents à des associations et on se fait superviser. C'est-à-dire qu'il y a forcément des moments de doute ou des moments qui sont plus difficiles pour chacun. Chaque coach en fait, et le fait de pouvoir aller en discuter en disant bah tiens, il s'est passé un truc, je m'y attendais pas du tout et qui m'ont mis en difficulté et que j'ai l'impression que j'ai pas aidé ou que c'est pas arrivé, etc., pour en discuter et retravailler et refaire d'autres propositions derrière, ou des choses qui vont nous appeler, nous nous faire un miroir sur quelque chose que voilà qui est difficile pour nous. Donc voilà, on n'est pas lâché dans la nature. On se fait superviser par des coachs superviseurs régulièrement pour continuer d'améliorer nos pratiques. Comme la formation continue, en fait.
Comment est-ce que tu gères ton temps? Parce que donc t'es à peu près mi-temps sur les deux, mais bon, j'imagine que t'as aussi des demandes de coaching. Enfin, faut faire rentrer tout dans les bonnes cases. Comment t'as fait?
Effectivement, j'ai des jours fixes à la clinique qui sont définis et qui sont plutôt début fin de semaine pour me laisser le cœur de semaine plus dispo pour pouvoir bouger, parce que c'est vrai que ça peut m'amener à faire des déplacements. Et je dirais qu'après, l'activité de coaching, elle est partagée avec la formation aussi. C'est vrai qu'il y a peu de coachs qui font que du coaching. Et du coup, on peut... moi, je fais aussi pas mal de formations. Après, je fais des accompagnements aussi de coaching bénévole avec des associations. Enfin, voilà, j'aime bien quand ça bouge, c'est bien le cas. Mais après, ouais, c'est une question d'organisation et puis savoir reporter de 15 jours une formation, quelque chose si besoin est. Ouais, c'est ça. Hein, pour pouvoir, en plus, comme tu dis, ça peut être assez prenant. En plus, c'est vrai, je pense, changer de casquette, c'est assez énergivore. Un jour la casaque, un jour en visio, le lendemain on est en déplacement sur une autre thématique. C'est pas de tout repos, mais bon voilà, c'est ce qui me stimule aussi, qui fait que je suis bien dans mes métiers, quoi.
T'as des petits tips d'ailleurs pour nos auditeurs qui nous écoutent, pour te ressourcer rapidement justement entre ces, parce que ça arrive souvent dans le milieu véto de voir justement on a une euthanasie et puis après peut-être on a une visite. T'as des petits tips sur comment tu te ressources rapidement en changeant de casquette?
Ça va être peut-être de me programmer dans la semaine. Alors ça vient ou ça, des fois ça vient pas, mais de se dire programmer dans la semaine ou dans le week-end des moments de vide, de respiration. Hein. Par exemple, c'est vrai que comme des fois je fais des semaines de 6 jours, comme je fais des vendredis, samedis à la clinique. La semaine d'après, c'est un peu dur. Donc des fois, je vais avoir une demi-journée, comme un peu ce matin, c'était plus off, c'est un temps pour moi où je vais sortir me marcher, un peu courir, ou faire du yoga, ou papoter.
T'as un podcast.
Aujourd'hui, ou papoter avec des copines. Voilà, c'est des choses qui permettent de faire une petite pause, se ressourcer. Après, peut y avoir des techniques de respiration. Après, je trouve que c'est vraiment individuel, la sophrologie, etc. Des techniques de cohérence cardiaque. Ça, c'est vrai que ça fonctionne super bien. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où je le faisais plus. Après, il y a des moments où on le fait un petit peu moins. Ces techniques de respiration, ça aide. Et puis après, je pense, se programmer des moments pour faire ce qu'on a envie ou rien faire, et savoir mettre des limites. Parce que là, c'est vrai que sinon, moi, ça peut être sans fin. Mais je sais que, on en discutait avec une collègue à la clinique où une clinique de connaissance avait dû charger son agenda. N'avait pas pu refuser certains rendez-vous. Quand on voit une journée avec, je sais plus, 20 rendez-vous, 25, à un moment donné, quel plaisir à chaque consultation, on court. Voilà, c'est arriver de temps en temps à dire non, stop, je ne pourrais pas vous recevoir, vous pourriez venir demain. Je pense que c'est ça qui est important. Le tip, c'est bien se connaître, savoir quelles sont nos limites. Parce que des fois on a une grosse force de travail, donc du coup on pousse, on se dit c'est pas une consultante en plus, c'est pas une deuxième. Puis en fait, c'est ce qui fait qu'on va passer une mauvaise soirée parce qu'on est épuisé, on sera pas concentré sur nos on va rater notre cours de sport parce que on aurait voulu rendre service et en plus ces gens-là n'auront pas forcément été aimables et nous auront pas remercié et du coup on va en vouloir. Et là, je trouve qu'on rentre sur un cercle vicieux. Donc essayer de rester sur le truc plus vertueux, de se dire si je donne un peu de mon temps, je dis aujourd'hui je rate mon cours de sport parce que j'ai besoin de recevoir cet animal. Alors, on a choisi de le faire et c'est parce qu'on avait encore les ressources pour pouvoir accueillir bien les gens, accueillir bien les animaux et s'accueillir bien notre fatigue après aussi, quoi. Hein. Je pense que c'est ça. Après c'est pas facile, hein. C'est un peu derrière le micro comme ça. Prenons du temps pour nous, et etc. Après dans le quotidien, c'est sûr que c'est un challenge. Hein.
Ouais. Mais rajouter cette notion de choix et de conscience sur une obligation, sur ce qu'on perçoit être une obligation, je pense que c'est très utile ce que tu viens de décrire là aussi. Au-delà de dire ok, il faut que je m'arrête là, déjà il faut que ben c'est qu'il faut les bannir. Mais au-delà de dire ok, là faudrait que je m'arrête. Bon, je ne m'arrête pas, mais par contre je mets ta conscience sur ce qui va se passer par la suite.
Qu'est-ce que le fait de dire ok pour le rendez-vous, qu'est-ce que ça induit quoi? Du coup, ça peut induire beaucoup de choses. Et si la balance elle passe vraiment plus d'un côté, est-ce que je dis vraiment oui ok pour faire des concessions à ce moment-là? Ça, après comme je l'ai dit, hein, moi j'ai un moment je choisis ma pratique, mon quotidien, ma façon de travailler. Alors j'ai eu la chance de trouver une structure où ils étaient ok pour que j'ai un mi-temps. Déjà c'est je suis super contente et je les remercie. Là du coup c'est vrai que je peux moduler mes activités et du coup je lève le pied sur certaines. Voilà, il y a des périodes aussi quand on fait de l'accompagnement, de la formation, du conseil, les consultants, on a des rythmes assez variables. Donc il y a des gros coups de feu et puis d'autres moments c'est un peu plus calme. Mais de se dire à un moment voilà, moi qu'est-ce que je suis capable? Bon après c'est quand des fois on est allé un petit peu au-delà de ses limites que on sait que on a des limites. Donc il faut arriver à les poser et à se laisser embarquer dans le flux du quotidien quoi.
Et effectivement, ouais, les signes.
Travailler en thérapie sur ces thématiques hein, ça peut être aidé par le coaching, arriver à mettre des limites dans mon travail, ça peut être arrivé en coaching, mais aussi en thérapie, effectivement, qu'est-ce qui fait que je me laisse dépasser ou que je ne sais pas dire non, ou voilà.
Oui, souvent des peurs et des besoins qui se cachent derrière tout ça.
Bien sûr, eh oui.
Alors, il y a un sujet qui revient quand même beaucoup, que je suis sûre qu'on t'évoque ou que t'entends évoquer à gauche, à droite, c'est ce fameux sujet de différence générationnelle hein, et de recrutement qui va avec. Mmh. J'aimerais bien que tu nous en parles ou que tu te donnes ton avis sur la chose et si tu as des cas concrets.
Qu'est-ce que tu entends du coup par qu'est-ce que tu entends par génération, recrutement, voilà, est-ce que tu as des...
Ouais, alors je pense que la crise du recrutement, je pense que ça tu la connais. Hein. On est sur des chiffres assez hallucinants en termes de départ du métier avant l'âge de 40 ans et puis et de personnes qui même terminent leurs études et que ne se lancent pas dans le métier. Je parle du métier de praticien là pour le coup. Hein,
yes.
Et on entend de manière assez fréquente des personnes, des vétos de plus de, on va dire, 40 ans qui disent non mais les jeunes, c'est pas les mêmes, ils ont pas la même niaque, ils veulent pas travailler de la même façon, ils sont plus à la recherche d'un équilibre vie perso, vie pro, ça penche quand même plus vers la vie perso, voilà, ce genre de choses.
Ouais. Exactement, ouais, c'est effectivement des éléments qui peuvent revenir, ou même, tu vois, sur une formation managériale, sur les fondamentaux des managements de la semaine dernière, sur voilà comment manager les jeunes. Avec des managers qui peuvent avoir de l'écart ou même de la même génération que les jeunes, tu vois. Mais c'est vrai qu'on s'interroge à cette façon. Alors oui, ce que je peux partager aussi, c'est que cette notion est partagée par toutes les professions, parce que je suis en contact avec beaucoup de coachs RH, de milieux très différents même dans l'informatique. Donc, la difficulté à recruter et l'impression de décalage entre les attentes des jeunes générations et les attentes que pouvaient avoir les vétérinaires avant. Ça, c'est des choses qui sont perçues dans d'autres milieux. Après, moi, j'entends, hein, effectivement, on a une crise de recrutement parce qu'on n'a pas assez de jeunes. Et certains, effectivement, peuvent avoir envie de pratiquer différemment. Donc après, ce que j'ai envie de dire, c'est que faut pas voir les choses que sous ce prisme, parce que sinon on met une case, une étiquette en disant cette personne, je recrute un jeune, on va jamais pouvoir travailler ensemble. Je pense que c'est pas vrai. Il y a toujours eu des écarts. Simplement, effectivement, est-ce que les jeunes vont pas plus faire entendre la façon dont ils ont envie de travailler, ce qui est acceptable pour eux, pas acceptable. Et des fois, on peut se dire finalement, est-ce que si on devait voir un côté positif, le fait que les jeunes formulent ce qu'ils attendent, ça fait gagner du temps plutôt que d'avoir quelqu'un qui va prendre un job, pas être bien, et puis le quitter, on sait pas trop. Voilà. Donc, si on veut construire quelque chose ensemble, bah au moins les cartes sont sur la table, et si ça convient pas, ça convient pas. Si ça convient, tant mieux, quoi. Donc, effectivement, un, c'est des choses qui reviennent très souvent. Deux, bah, il faut aller un petit peu au-delà et se dire comment on va arriver à travailler ensemble. Après, sur le recrutement, c'est vrai que pour l'instant, s'il n'y a pas assez de ressources, c'est comme je te dis le cas dans de nombreuses entreprises, dans de très nombreux domaines, l'idée, c'est un peu facile aussi de le dire, mais pas prendre personnellement le fait de n'a pas avoir été choisi, parce que à l'heure actuelle, les gens qui cherchent du travail ont plein de propositions, alors que la clinique qui est à recherche de ressources, elle va avoir un ou deux CV dans les bons cas. Donc c'est voilà, soi-même déployer des outils pour pouvoir avoir des recrutements efficaces, être sur les bons, potentiellement les bons réseaux, avoir des bien se connaître. On avait travaillé à la VAC là-dessus en disant voilà, bien se connaître, savoir ce qu'on propose, pour soi-même être clair, donner une vision, et voilà, pouvoir être choisi et trouver des candidats qui ressemblent à qui on est. Je pense que, d'ailleurs, ouais, ça me fait faire un lien que j'avais pas forcément fait avant, mais se dire, oui, les jeunes, etc., en fait, on est sur des notions de valeur. Si on se considère que notre clinique travaille sur, je sais pas, une activité mixte, et qu'on recrute un vétérinaire mixte, au niveau des compétences techniques, cette personne saura faire son job. Et là où on a besoin de se retrouver, et là où on a des fois l'impression d'un décalage, ça va être sur les valeurs. Et dans ce cas-là, nous, en tant que structure, ou en tant que plus senior, ou en tant que vétérinaire plus mature, peut-être savoir mieux qu'est-ce qui nous motive, qui on est, qu'est-ce qu'on propose, des choses, et c'est concret, hein, parce que c'est vrai que vous allez me dire, ouais, elle est gentille, elle travaille sur cette stratégie, les valeurs, la mission, il y a beaucoup d'entreprises où on regarde sur leur site internet, les missions, c'est l'excellence et ceci, cela, et puis en fait, la bienveillance, et puis après, au quotidien, on se fait malmener quand on bosse dans cette boîte, donc non, faut vraiment que ce soit ensuite des valeurs qui soient concrètes. Donc, je sais pas, la bienveillance, ça va être, on fait des réunions pour partager en binôme ou en équipe tous les mois pour partager les choses qui vont bien dans la structure, plus un temps pour partager les choses qu'on a envie de construire. Enfin voilà, il faut que ce soit des choses vraiment concrètes. Et ça se développe, hein. Je vois de plus en plus de structures qui travaillent sur ces notions, qui les déploient bien, qui mettent des choses en place. Et de l'autre côté, avoir des candidats aussi qui se connaissent bien pour savoir, voilà, je vais dans une structure, je sais à quoi m'en tenir, voilà ce que je peux amener, voilà ce que je peux recevoir. Après, voilà, ça reste le monde de l'entreprise. Des fois, on a envie, de besoin d'aller voir autre chose, et il faut pas le prendre personnellement quand un salarié doit suivre son conjoint en France. Voilà, c'est aussi peut-être décorrélé beaucoup de l'affect. On est dans des petites entreprises où on a presque envie d'être des amis, et on l'est, hein, et c'est très bien. Mais garder quand même un petit peu la distance, parce que sinon, si on est trop mélangé, les uns et les autres, on n'ose plus. Soit on n'ose plus, soit on fait n'importe quoi d'ailleurs. si ça vient grignoter un petit peu trop personnellement, je sais pas ce que t'en penses.
Oui, on revient à cette histoire de. Enfin, l'analogie qui me venait, c'était l'analogie du couple où au début on est assez à peu près franc, et puis à peu près après on commence à faire des concessions, et puis on n'ose plus se dire les choses. Et on revient à cet élément de communication qui est importante. Et oui. Puis ce que tu as évoqué au début, ouais, de bien identifier ses besoins pour pouvoir mieux les exprimer, et du coup de ne pas être sur cette valence un peu superficielle de moi j'ai besoin de quelqu'un qui vienne travailler et puis on s'arrête là. Et je pense que tu as évoqué aussi ce qui est important et peut-être qu'on néglige peut-être un petit peu, c'est les besoins du futur employé qui eux malgré tout ils sont face à une multitude de choix Et moi, je me rappelle bien, en sortie d'école, nous, on n'avait pas ce luxe déjà, mais en tout cas, oui, l'identification de ses propres besoins quand on est jeune, je pense que c'est pas toujours facile non plus. Et que bah, si on est en force de proposition, je pense, dans une clinique, de justement aider cet employé, futur employé potentiel, à lui aussi identifier ses besoins de manière plutôt transparente. Ok, bah peut-être qu'il viendra pas dans votre clinique, mais du coup, s'il vient, c'est pour les bonnes raisons aussi.
Je suis tout à fait d'accord, cher docteur.
Mais sujet complexe, hein, sujet complexe, et d'autant plus compliqué quand on est à la recherche, quand on est dans une clinique et à la recherche depuis longtemps, qu'on est fatigué, qu'on est en mode pompier. Et oui.
Exactement, c'est ce que j'allais rebondir. Effectivement, quand on est, je dirais, ce que je disais, un peu dans le jus, dans la soupe, dans le quotidien, que nous, on a un planning voilà, qui est déjà full, arriver à prendre ce pas de côté et de dire oui, voilà, je recrute cette personne, quels sont ses besoins, et sauf que on dit toujours recruter quelqu'un, ça c'est, je crois, même des études qui prouvent que recruter quelqu'un qui ne nous correspond pas, ça coûte beaucoup plus cher, déjà financièrement, de recruter une nouvelle personne, de faire les démarches, etc. Ça prend un temps pas possible, et quelle énergie quand la personne n'est pas en fait alignée et qu'on a déjà du mal à lui expliquer, je sais pas, je dis quelque chose de très gros, mais qu'il faut dire bonjour au client, cette personne, c'est exagéré, mais j'ai déjà vu, c'est pour ça que je dis, ou se dire bonjour dans l'équipe, parce que c'est une personne qui vient juste bosser pour bosser, et que nous, on avait jusque-là une équipe très soudée, eh bien, voilà, on va pas apprendre à dire bonjour, ou apprendre si c'est une personne qui a des valeurs différentes. Donc, dans ce cas-là, voilà, combien de mois, et il y a beaucoup de structures, alors là, c'est très gros ce que je dis, mais qui peuvent être sur des petites divergences, voire même des associations. On n'est pas d'accord sur là où on veut aller. Moi, je veux un équipement high-tech, à la pointe, etc., alors qu'une autre personne voudrait un cabinet de proximité. Alors, on est tiraillé tout le temps entre les deux. Du coup, les autres collaborateurs ASV, salariés, sont tiraillés entre l'un ou l'autre. Alors, il peut y avoir des affinités, voire se forment des clans. Enfin, voilà.
Ouais, des situations qui peuvent être très compliquées et très gangréneuses. Hein.
Des enlisements, ouais, c'est le mot qui vient, des gangrènes, des enlisements. Et je pense que parfois on se dit, oh bah ça fait partie. Alors oui, toutes les équipes du monde traversent des difficultés, ça aussi. Hein, l'intelligence collective qui arrive, c'est extrêmement rare. Hein, d'être dans un flow, tout le monde fonctionne. Voilà, il y a toujours des choses perfectibles dans des équipes. Mais c'est, il y a des choses qui sont quand même pas normales et qu'on n'est pas obligé d'accepter. Je sais plus si c'était dans le monde veto, un partage d'expérience. D'ailleurs, ça fait 2 ans qu'une personne a dit, voilà, moi je suis plus bien ici, j'aimerais partir, mais je sais pas, d'un côté comme de l'autre, je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un départ. Mais quelle énergie, on se rend pas compte en fait que des fois on peut être fatigué, parce que ça prend beaucoup beaucoup d'énergie.
Ouais.
Donc arriver à et puis c'est, on peut être aussi un petit tip de dire finalement intervenir dès qu'il y a un petit stimulus qui vient, un petit caillou dans la chaussure, retirer le petit caillou plutôt que d'avoir un trou dans le talon, c'est toujours mieux, quoi. Le conflit, hein, il s'installe, en général, on dit c'est une situation de blocage. Le conflit s'installe d'abord par des incompréhensions, des interprétations. Donc, l'idéal, c'est d'avoir le temps et de prendre le temps pour débloquer. Et donc en entretien, si on a une petite intuition, un petit truc, bah faut pas hésiter à creuser. Et ça, c'est des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand tu m'as dit ça, voilà, comment tu te vois? Une journée classique dans la clinique, pour tâter un peu les choses plus subjectives, qui touchent un peu plus, sans rentrer dans le perso intime qui reste du privé et que l'employeur ne se doit pas d'aller chercher non plus, mais
En fait, faudrait mettre en place des, bon, c'est un peu ce que les groupements font, mais des partenariats entre les agences de recrutement et les coachs. Faire des petits d'entretien, etc.
Il y a des agences, bah, de chasse de tête, choses comme ça. Alors après, moi, je suis équipée, là, de questionnaires de personnalité qui sont, utilisés par des très grands groupes, pour aider au recrutement. Alors, il y a différentes techniques. Soit on fait passer des cas pratiques. Moi, j'avais vu, moi, dans une clinique, il m'avait dit, tiens, si t'as une radio comme ça, tu fais quoi? Nanana. J'avais trouvé ça un peu assez original, mais on était que sur le technique. C'est vrai que si on peut aller un peu sur d'autres thématiques, alors je dis questionnaire de personnalité, mais des fois rien qu'écouter son intuition. Et en fait, là, se dire, bah ouais, mais j'ai eu 15 CV et cette personne, dès demain, elle peut faire des consultations. Donc, sinon, j'ai personne d'autre et on est en sous-effectif. Bah après, voilà, faut savoir qu'on a recruté une personne. Bah, est-ce qu'on fait pas dans ce cas un CDD? Ou est-ce que je sais pas, voilà, faut savoir en tout cas que c'est pas en adéquation 100% quoi.
C'est ça, mettre en place des garde-fous, par rapport à ce choix.
Bien, elle dit que la personne qu'on recrute a compris que oui, il y aurait des gardes et qu'elle a dit qu'elle était pas pour les gardes, mais oui, on a dans le poste qu'elle accepte quoi aussi. Je sais pas, genre je pense ça quand même, non, mais qu'on soit bien d'accord sur le cadre initial.
Communication. Il y en a jamais trop. Non, ça c'est clair. Est-ce que je vais peut-être te prendre un peu de cours avec cette question. Est-ce que tu aurais un partage d'expérience en tant que coach positif du coup de voilà une clinique ou même en individuel un cas concret d'accompagnement un départ et une arrivée. Donc, pour vraiment illustrer comment ça, enfin, l'impact du coaching, quoi.
Oui. Alors, je vais prendre peut-être l'exemple d'un, alors c'est pas vraiment un coaching, mais en tout cas c'est un accompagnement collectif. C'est un des premiers que j'ai fait de Sauvette, là. et qui est assez marquante puisque c'est, on va dire, c'est pas une situation pompier où faut éteindre le feu, rien ne va. C'est la catastrophe, mais plutôt à l'inverse, une clinique qui fonctionne bien et qui a par contre un changement dans les associations et qui souhaite mettre en place une démarche positive pour se projeter dans les années qui viennent et être sûr de garantir qu'on va bien travailler ensemble, que chacun va trouver sa place parce qu'il y a un noyau de trois associés qui restent et on rentre une quatrième associée nouvellement, on va dire, pour parler de génération, c'est des personnes qui sont à peu près de la même génération, quoique peut-être entre 25 et 40 ans peut-être. Et l'idée, c'était du coup, très, comme je dis, l'objectif plutôt clair, j'aime bien mettre un cadre bien clair, c'était démarrer notre association sur des bonnes bases et se projeter dans les années qui viennent. Pour faire en sorte que nos deux structures et deux cabinets, enfin une clinique et un cabinet, me semble, fonctionnent bien. Donc là, on dit top, hyper positif, c'est tout le monde est motivé à faire cet accompagnement, parce que c'est vrai que, en gros, c'est pour moi l'accompagnement idéal. Tout le monde va bien, les gens sont tous motivés à faire cet accompagnement. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? En fait, c'est extrêmement riche parce que, on va aller effectivement chercher, alors. Là, ce que l'on avait proposé, c'était un temps individuel pour faire grandir un petit peu, mieux se connaître chacun, pour pouvoir ensuite savoir qu'est-ce que je vais vouloir apporter, moi, à cette association, et aussi qu'est-ce que j'en attends. Donc, on avait fait un questionnaire personnalité, en l'occurrence, et un temps de restitution d'une heure et demie, avec, un peu des réponses à ces questions, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, qu'est-ce que ça peut m'apporter, où est-ce qu'on se voit, vraiment un temps individuel pour que, je pense que c'est important, chacun aussi sache ce qui est important pour lui, quoi. Donc c'était les quatre leaders, et puis ensuite on a fait une journée collective en travaillant déjà un petit peu sur ce qui avait été partagé et en reprenant les termes et disant moi je suis comme ça et c'est vrai que de faire des ateliers autour de ces thématiques. Moi, je suis plutôt quelqu'un de leader. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui a les idées. Là, en l'occurrence, en plus, je crois que chacune avait un peu des rôles complémentaires des autres. Et ce qui était ressorti, c'était le truc le plus puissant de la journée. Oh, je découvre, entre guillemets, mon rôle que je peux apporter dans cette équipe, que les autres, j'osais pas leur en parler. Je voyais bien que j'avais une tendance à être pleine d'idées, mais je savais pas comment les mettre en place. Et donc maintenant, je sais que bah on peut les mettre en place ensemble et qui en plus je peux m'appuyer sur un tel qui elle adore faire des fiches, des trucs, peut prendre la suite de mes idées ou on peut construire ensemble. Donc ça c'était hyper puissant. Puis après se projeter sur quelles actions concrètes on va mettre pour 6 mois, 3 mois, etc. Je pense que ça les avait bien lancés. On avait refait un petit temps quelques mois après. Après, il me semble que voilà, on n'avait pas reprogrammé de temps à 6 mois, 1 an. Je pense que c'est aussi se reprogrammer des rendez-vous. Si j'avais quelque chose qui pourrait être perfectible, c'est se dire bah voilà, se suit vraiment dans 6 mois, 1 an, sans faire une journée entière, mais rejalonner de petits objectifs régulièrement, ce serait encore mieux. Mais vraiment, j'avais adoré en tout cas cet accompagnement, qui est pour moi le sens que je veux faire à mon métier d'accompagnante. C'est que, je crois, moi, sur mon site internet, en tout cas mon claim là, mais une espèce de phrase, c'est gagner en efficacité et sérénité au quotidien. Bah, je pense que là, on avait travaillé vraiment là-dessus, quoi, sur les deux pendants, et on est bien ensemble et on est efficace.
Et je me permets même d'ajouter mettre du sens dans son quotidien, peut-être.
Bien sûr, ouais.
Donc oui, c'est une belle illustration de concrète, finalement, de voilà, on part de quelque chose, on a un objectif bien précis et on met en place une façon de faire pour y arriver. Est-ce que avant de te poser la dernière question fameuse du podcast, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, que tu aimerais évoquer?
On n'a pas parlé peut-être des différents outils pour se mettre en lien les uns les autres, et ça me permet déjà de vous remercier de notamment faire ces liens et de pas hésiter à toquer à des portes quand on a des moments de doute ou on a une profession, on est une petite profession, donc toquer à des portes à des anciens copains de promo ou voilà. Ça, je pense que l'idée de comme on est petit, que on a une profession avec du stress, potentiellement des contraintes, c'est ce qui ressort. Et là, on a vu, je dirais, le côté. Moi, j'aime beaucoup la mise en action, etc. Après, comme on dit, il faut des temps de respiration. C'est vrai que là, ce que je peux peut-être mettre, c'est moi, j'ai un côté très dynamique, mouvement, challenge. J'ai appris aussi à faire des temps pour moi et peut-être ça le partager avec les auditeurs aujourd'hui. On disait arriver à prendre du temps pour soi, de ralentir et de pas se mettre trop de pression, de pas voilà, d'être doux avec soi-même. C'est hyper important de se faire du bien, quoi.
Merci pour ces précieux conseils. Ma dernière question d'ailleurs était quel conseil donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même? Donc j'imagine que voilà, il y a déjà des choses que tu as abordées là, peut-être encore autre chose à rajouter si tu t'imagines face à toi âgée de 24 ans fraîchement sortie d'études.
Question puissante. Une super question là, qui est toujours passionnante. ce serait suis ton intuition.
Fais-toi confiance.
Ouais, oui, fais-toi confiance, suis ton intuition, fais-toi plaisir aussi, je pense. Ouais. Après, ce que j'aurais entendu, je suis pas sûre. Donc c'est plutôt suis ton intuition.
C'est ça. Ouais, bah oui, la sagesse de l'âge, hein. Malgré tout. Bon, merci beaucoup Anne-Sophie. Merci aussi d'avoir mentionné à plusieurs reprises que Veto Micro était un outil. Je trouve ça très chouette. Merci pour ça et merci pour tous tes partages hyper intéressants sur le coaching et sur finalement sur comment tu as appliqué ton fameux mantra et comment tu l'appliques aujourd'hui avec
ton
métier, ton métier à multiples facettes.
Et oui, comme toi et comme nous tous en fait.
Oui, tout à fait.
Au sein d'une journée, on est multiples veto.
Merci à tous.
Merci de m'avoir laissé l'opportunité de partager mon témoignage aujourd'hui.
Avec grand plaisir. À bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@temavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.